Bonjour frères et sœurs, je vous souhaite à vous tous un excellent sabbat. Il y a quelques années, j'ai vu un spectacle son et lumière au château de Chambord, dans la région de la Loire, en France. On projetait des lumières, on jouait de la musique, il y avait des effets sonores, différentes couleurs de lumière sur le château, et on racontait l'histoire de ce château. Le spectacle était impressionnant, beau et très agréable à écouter et à regarder. Aujourd'hui, nous allons voir, en progressant dans cette série de sermons pour expliquer, pour décortiquer le sermon sur la montagne, nous allons voir que notre Père s'attend à ce que nous, en tant que chrétiens, nous fassions une impression sur les autres, une belle impression, agréable, pour tous ceux qui nous entourent. Nous sommes en train de regarder les enseignements de base du christianisme, dans Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Je vous propose de continuer ce que nous avons commencé il y a quelques semaines. Nous allons lire maintenant ce qui suit les Béatitudes. Il s'agit bien entendu de Matthieu chapitre 5 à partir du verset 13. Matthieu chapitre 5, verset 13. Lisons la suite de ce passage si fondamental. Lisons ensemble. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc il est question pas de son et de lumière, mais de sel et lumière. Parlons un petit peu et voyons ce que la Bible dit à propos du sel. Pourquoi cette analogie? Nous sommes le sel de la terre. Le sel sert à plusieurs choses. Tout d'abord, le corps physique ne peut pas vivre sans un apport de sel régulier. Sans sel, nous mourons. Ça sert à parfumer la nourriture, ça nous le savons. Certains mets sont beaucoup plus agréables à manger quand il y a un peu de sel. Regardons Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4, verset 6. Colossiens chapitre 4. Verset 6. Là, nous lisons « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Nous devons laisser un bon goût dans la bouche des gens, pour ainsi dire, pour employer cette analogie. Le sel est comparé à la grâce. Notre parole doit être accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin de savoir bien répondre à nos interlocuteurs. Ça ajoute un goût agréable. Et c'est comparé aussi à la sagesse, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc il y a une question de sagesse. Le sel permet une sagesse pour savoir quel est le bon mot à prononcer maintenant. Comment est-ce que je dois aborder cette personne, cette situation, ce sujet? Donc pour parfumer, pour laisser un goût agréable. Et la Bible nous encourage à laisser une bonne impression sur les gens. Les gens devraient apprécier notre compagnie. Ne pas regretter, oh là là, il faut que j'ai affaire à celui-là ou celle-là. Ça, nous ne voulons pas. Nous voulons que les gens anticipent notre compagnie, d'être avec nous, de discuter avec nous. Nous avons notre référence dans Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, verset 34. Luc chapitre 14, verset 34. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il n'est pas bon pour le fumier. Le sel, en petite quantité, peut servir comme un engrais ou peut ajouter, peut améliorer la qualité et la fonction d'un engrais. Donc, c'est un agent de conservation. Ça aide à la croissance pour les semences et c'est aussi un agent de conservation, comme nous le savons, pendant très longtemps avant la réfrigération, à peu près le seul moyen de préserver la viande, c'était avec du sel. Le sel empêche la pourriture. Que tirer de ces quelques passages, de ces quelques points qui sont soulignés dans la parole de Dieu pour nous? Nos exemples devraient ralentir la dégradation du monde autour de nous. Nous devrions être, en tant que chrétiens, des îlots de gentillesse, de souci pour autrui, de grâce et d'espoir pour l'avenir. Et pour ceux qui vont par la suite entrer en contact avec la bonne nouvelle, être appelés par Dieu, nous deviendrons vraiment une source de vie, de conservation. Notre exemple peut tendre dans cette direction. Maintenant, nous avons lu dans un passage, si le sel perd sa saveur. En fait, le sel ne peut pas vraiment perdre sa salinité, sa saveur. Mais le sel, en tant que produit chimique, peut se combiner avec d'autres produits chimiques et se transformer en autre chose. Ce n'est plus le sel. La saveur, la salinité disparaît puisque le produit chimique devient autre chose. Il faut comprendre qu'à l'époque, la plupart des sels disponibles au monde, le sel que les gens connaissaient au premier siècle, étaient issus de marais salés. Donc, il y avait beaucoup d'impuretés qui étaient là avec le sel. Le sel, à proprement parler, était plus soluble, davantage soluble que d'autres éléments, et pouvait s'enlever. Le poudre qui restait n'était pas vraiment du sel, ça ressemblait à du sel, mais ce n'était pas le sel était parti. Donc, c'est une autre façon de comprendre si le sel perd sa saveur. Si ce qui rend différent un chrétien s'en va, disparaît, eh bien, nous ne servons plus à rien. Le résidu vaut peu. Selon le commentaire Expositors, le produit qui reste est aujourd'hui mis sur les toits des maisons plats au Moyen-Orient. Ça sert de terrasse pour les rendre plus durs, foulés aux pieds des hommes. Apparemment, c'était le cas au premier siècle également. Nous pouvons donc conclure, après cette première partie, ce premier point, nous sommes le sel de la terre, nous pouvons conclure que si nous voulons accomplir notre tâche, notre devoir en tant que chrétien, nous devons nous conformer aux normes du royaume, non pas aux normes de ce monde qui va à la dérive. Nous devons nous conformer aux normes du royaume de Dieu, agir comme Dieu le veut, ajouter un goût agréable dans la vie des gens, être un agent de préservation et aider également à la croissance, comme le ferait un engrais pour les plantes. Maintenant, si nous revenons dans Matthieu chapitre 5, voyons la suite, verset 14 maintenant, relisons. Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous sommes la lumière du monde, Jésus dit. Nous sommes la lumière, mais une lumière qui doit luire également à partir de nous, qui doit être visible aux autres. Comment comprendre ce que cela veut dire? Mais déjà, nous voyons qu'il s'agit de bonnes œuvres, donc la lumière, en partie, c'est cela. Mais avant de considérer cela, considérons autre chose que la Bible dit à propos de la lumière. Dans 1 Timothée chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 13. 1 Timothée chapitre 6, nous allons commencer au verset 13. Paul dit à Timothée, « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Dieu habite une lumière inaccessible, trop brillant pour que les hommes puissent survivre la vue de cette lumière. Dieu est lumière. Il habite la lumière. La lumière est précieuse à Dieu. C'est la première chose qu'il a dit dans la Genèse, les premières paroles que nous voyons, que la lumière soit. C'est la première chose qu'il a ordonnée. Il faut qu'il y ait de la lumière. Il faut chasser les ténèbres. Et à la fin, justement, c'est ce que Dieu fera définitivement. Aujourd'hui, nous avons la nuit, le jour et la nuit. Il y a lumière et il n'y a pas lumière, ou alors très peu de lumière. Mais la Bible dit qu'en fin de l'histoire, en fin de compte, Dieu va bannir les ténèbres définitivement. Apocalypse chapitre 21, tout à la fin de l'histoire humaine que nous trouvons dans ce dernier livre de la Bible, Apocalypse 21, verset 22, une description de la nouvelle Jérusalem. Apocalypse chapitre 21, verset 22. « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. » Il n'y aura plus une partie de la journée qui est ténèbre et noire. La nuit n'existera plus. Dieu va définitivement bannir les ténèbres de la Nouvelle Jérusalem. Il n'y aura que lumière 24 heures sur 24, si nous comptons encore les heures de cette manière-là à cette époque. Dieu va bannir les ténèbres finalement. Maintenant, revenons dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière de la vie. Jésus nous montre comment vivre pour avoir la vie éternelle, en fin de compte. Nous aurons la lumière de la vie. Si nous suivons son exemple, si nous suivons ses instructions, nous marchons dans une lumière spirituelle. La lumière de la vie. Et si nous tournons une page vers Jean chapitre 9, l'évangile de Jean chapitre 9, verset 4, il est souvent question de lumière dans l'enseignement de Jésus-Christ, l'analogie entre le jour et la nuit, la lumière et les ténèbres. Jean chapitre 9, verset 4, Jésus a dit, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Il y avait une lumière spirituelle qui brillait dans ce monde de ténèbres pendant tout le ministère de Jésus-Christ. Et il a employé cette analogie d'une autre manière également. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. On doit travailler dans la lumière. La nuit vient où personne ne peut travailler. À l'époque, toute lumière artificielle relevait du feu. Et si vous avez déjà, vous êtes assis autour d'un feu de camp pendant un camping, vous êtes dehors parfois quand il n'y a pas de lumière électrique, vous savez que la lumière n'est pas très brillante. La lumière d'un feu n'éclaire pas très bien. Et la nuit, il était difficile de travailler. En plus, ça coûtait cher d'allumer des flammes pour pouvoir travailler. Donc, les gens, le plus souvent, quand le soleil se couchait, ben, c'était la fin de la journée. On ne travaillait plus. On ne travaillait plus. On ne pouvait pas travailler la nuit. D'une certaine façon, Jésus a dit, pendant que je suis vivant, pendant que je suis ici sur la terre, il faut que je travaille parce que un jour je vais mourir, je vais remonter vers mon Père dans les cieux et je ne pourrai plus travailler sur terre. Je pourrai travailler à travers d'autres personnes, à travers le Saint-Esprit, mais ce que je suis venu accomplir dans mon ministère, il y a un temps limité pour cela. Et ça aussi, frères et sœurs, c'est vrai pour nous. Nous avons un temps limité pour travailler, pour accomplir l'œuvre que Dieu voit accomplie dans nos vies. Nous devons savoir que les minutes sont comptées, les jours sont comptés, et nous devons remplir nos journées, remplir nos vies par une activité salutaire qui tend dans le sens de l'accomplissement de la volonté de Dieu. L'Évangile, la bonne nouvelle du monde à venir, est également comparé à de la lumière. De Corinthiens chapitre 4. De Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3. De Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3. Paul dit, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, c'est par Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Tout ce passage ici compare l'Évangile, le message que Jésus a prêché à propos du royaume de Dieu, à une lumière. C'est ça qui brille autour de nous. Et si notre Évangile est voilé, s'il y en a qui n'arrivent pas à voir la splendeur, ce qui brille de ce message, c'est que Satan leur a mis un bandeau aux yeux, un bandeau spirituel qui les empêche de comprendre, de saisir. Ils ne voient pas ce qui brille dans l'Évangile, cette magnifique vérité. Donc, le message de l'Évangile est comparé à une lumière également. Nous aidons à faire luire cette lumière collectivement dans nos efforts pour partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu avec d'autres personnes. Cette analogie est reprise dans d'autres passages. Psaume 119. Psaume 119. Verset 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Encore une fois, si vous êtes baladé dans la nuit, où on doit faire très attention, ou alors on doit illuminer le chemin devant soi avec une lampe de poche, avec une chandelle ou avec quelque chose, une lanterne. Eh bien, David reprend cette analogie pour dire que la parole de Dieu, c'est comme une lampe qui éclaire le chemin devant lui pendant qu'il marche dans les sentiers. Une lumière sur son sentier. Tout comme Dieu est lumière et habite la lumière, la loi divine, la voix de Dieu est une lumière par laquelle et dans laquelle il faut marcher. Par laquelle et dans laquelle il faut marcher. La loi et la voix de Dieu. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 35. Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. » Afin que les ténèbres ne vous surprennent point, celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. C'était une chose qui faisait peur de se faire surprendre par la tombée de la nuit dans les temps anciens. Les gens se précipitaient d'entrer dans le village ou de rentrer chez eux où ils étaient en sécurité. Il y a beaucoup d'histoires de l'Antiquité de personnes qui se promenant la nuit se sont fait surprendre par la nuit, la noirceur, et puis ils tombent dans un lac ou dans un puits ou autre chose. Ça, ils pouvaient en mourir. Parce que quand on ne connaissait pas son chemin, il y avait toutes sortes de dangers. Eh bien, si nous ne restons pas, si nous ne laissons pas guider par la loi de Dieu, par l'évangile de Dieu, eh bien, nous sommes en danger. Nous pouvons nous pouvons tomber sur des pièges ou tomber sur des dangers qui peuvent nous blesser ou même nous tuer spirituellement. Dans les ténèbres, on ne sait pas où on va. Nous savons où nous allons, car nous avons la lumière de la parole de Dieu. Nous avons la lumière de l'Évangile. Nous devons savoir. Mais Dieu nous dit de faire attention quand même. Même si nous le savons, il nous donne des rappels. Marchez dans la lumière. Ne vous faites pas surprendre par les ténèbres. Et que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Ça, c'est le message derrière ce passage et les autres que nous sommes en train de voir. Regardons aussi 1 Jean chapitre 1. Premier épître de Jean chapitre 1. À partir du verset 5. 1 Jean chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous marchons selon la loi et la voie de Dieu, si nous vivons une vie de repentir, ou quand nous nous rendons compte que nous avons trébuché, nous avons transgressé la loi, nous nous repentons, nous demandons pardon à Dieu et nous continuons d'avancer, eh bien là, nous marchons avec Jésus-Christ. Et son sang nous purifie de tout péché. C'est là où nous pouvons recevoir le pardon de Dieu tout au long de la vie, quand nous marchons dans cette bonne voie. Et quand nous nous rendons compte que nous nous sommes écartés un tant soit peu, eh bien nous allons revenir, demander pardon à Dieu et reprendre le bon chemin. Marcher dans la lumière. Le marcher dans la lumière, ça doit être notre mode de vie. Il y aura des écarts, comme c'est le cas pour chaque être humain, mais la règle générale, la plus souvent, presque toujours, nous devrions marcher dans cette lumière. La lumière de l'Évangile, la lumière de la voie et la loi de Dieu. Notons aussi que la Bible dit que le chrétien doit non seulement marcher dans la lumière, il doit être une lumière par ses œuvres, les œuvres qui suivent la voie d'amour divin, pour aider, pour donner aux autres. Ceci montre qu'on ne peut pas vivre retiré du monde ou à l'écart. Vous êtes la lumière du monde, on doit être au milieu du monde, on ne peut pas se retirer quelque part et ne pas avoir de contact, sinon personne ne verra luire notre lumière, comme Jésus nous l'avait ordonné. Pour faire de bonnes œuvres autour de nous, il faut être au milieu du monde. Regardons Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 8. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Jusqu'au verset 14. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Nous sommes lumière. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Voilà comment nous devons être des lumières. C'est ça qui doit luire de nous, autour de nous. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Christ nous éclairera si nous nous réveillons, si nous restons éveillés spirituellement, si nous nous relevons de parmi les morts, d'entre les morts spirituels, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas encore connu Dieu, qui vivent encore dans les ténèbres, spirituellement morts, ça ne doit pas être le cas pour nous. Nous devons sortir des ténèbres pour être la lumière. Et quelques exemples ont été donnés. La bonté, la justice, la vérité. Toutes ces choses-là décrivent nos rapports les uns avec les autres, entre nous, mais aussi avec ceux qui ne croient pas comme nous. Ça, c'est l'exemple que nous devons projeter autour de nous. J'ai lu récemment une histoire que je voudrais partager avec vous. C'était une dame qui s'appelait Marie. Une dame d'une trentaine d'années rentrait chez elle en voiture vers 10h30 le soir avec deux enfants. C'était une soir de pluie. En arrivant près de chez elle, elle remarquait une voiture soulevée au creek sur le bord de la route. Un homme travaillait sur la voiture et une femme tenant un bébé au bras était assise sous la pluie sur le bord du trottoir en attendant que le travail ait été terminé. Marie s'est arrêtée pour demander si elle pouvait aider. L'homme a dit qu'il avait déjà téléphoné à son frère et que l'aide arrivait d'un moment à l'autre. Néanmoins, Marie a insisté que la femme entre avec son bébé dans sa voiture, où il serait au sec et au chaud. Et en fait, il a fallu 2 heures avant que le frère n'arrive. Elle était près de chez elle, donc cette famille savait où elle habitait. Une semaine après, on tapait sur la porte de Marie. C'était la femme de la voiture avec un bouquet de fleurs en papier qu'elle avait fabriqué de ses mains exprès pour Marie. Un an après, on tapait de nouveau à la porte. C'était la même femme. Nous passions dans votre coin et nous nous sommes demandé si vous habitiez toujours là. Il y a quelque chose que je voudrais vous dire. Nous sommes des immigrés récents, des étrangers. Quand nous sommes ensemble avec des gens de notre pays, ils racontent souvent des histoires sur la méchanceté, la dureté de certaines personnes de ce pays-ci envers eux. Chaque fois que j'entends une histoire comme cela, moi je raconte votre histoire. Je pensais que vous aimeriez le savoir. Et puis, ils sont partis. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Nous avons tous vécu des choses similaires. Un bon exemple peut durer longtemps dans les souvenirs, dans la mémoire des gens. Et ça, c'est une histoire, d'après ce que j'ai lu, c'est une histoire vraie. Ça, c'est le genre d'exemple que nous devrions montrer en tant que lumière dans le monde. Philippiens chapitre 2, verset 14. Philippiens chapitre 2, verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Comment est-ce que nous pouvons briller comme une lumière autour de nous? De faire toutes choses sans murmure ni hésitation. Mince, alors c'est toujours moi qui dois faire ceci. Pourquoi celui-là, il ne fait pas sa part? C'est toujours moi. Murmure, hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Les murmures, les hésitations de ne pas vouloir peut-être faire sa part, de vouloir faire travailler quelqu'un d'autre au lieu de soi-même, ça c'est le contraire de la pureté. C'est impur de murmurer. Celui-là, j'aime pas, etc. Nous avons tous connu des gens qui pratiquent cette mode de vie et nous l'avons tous fait aussi à un moment donné à un autre, n'est-ce pas? C'est humain. Mais nous devons être différent de ce qui est courant dans le monde. Bonne question à se poser. Jusqu'à quel point est-ce que je contraste avec le monde? Est-ce que je suis différent du monde? Sans hypocrisie. Jusqu'à quel point? Si on devait se donner une note sur 20, où est-ce qu'on serait? 10 sur 20, 15 sur 20, 18 sur 20, 3 sur 20? C'est à chacun de s'interroger et de s'évaluer. Ça fait partie de nos responsabilités comme chrétiens également. Voilà un autre exemple que j'ai lu également un petit mot reçu par un employé dans une société. C'est une dame qui s'occupait de la mutuelle d'assurance de sa compagnie. Et elle a reçu ce mot. « Cher Eugénie, je voulais juste écrire un petit mot pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi ici au travail depuis des années. Peu importe de quoi j'ai besoin, tu es toujours disposé à me donner un coup de main et à me donner un bon conseil. Parfois, j'ai l'impression que je suis la seule à t'interrompre aussi souvent. Mais à chaque fois, tu mets de côté ce que tu fais pour me donner toute ton attention. Tu es mon banquier personnel, mon conseiller financier, mon avocat professionnel, mon thérapeute, pour ne mentionner que cela. Tu m'as vraiment aidé dans des situations difficiles à travers les années. C'est toujours un plaisir de te parler parce que tu as vraiment un air réconfortant qui plane sur toi. Parfois, nous avons l'air de prendre ces choses pour acquises, bien que nous les apprécions au plus profond de nous-mêmes. C'est pour cela que je voulais prendre un moment pour t'exprimer mes remerciements. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi. » Voilà un autre bon exemple. Tout le monde aimerait recevoir un petit mot comme ça, n'est-ce pas? Après avoir montré un bon exemple. Mais regardons les choses de l'autre côté. Avec quelle fréquence est-ce que vous écrivez des mots comme ça pour des gens qui vous ont été particulièrement utiles? Il y a des gens dans nos vies qui sont comme ça. J'espère que nous prenons le temps de remercier nos conjoints pour leur soutien, remercier nos parents ou nos enfants ou d'autres, ou des frères et sœurs dans l'Assemblée qui nous épaulent, qui nous encouragent, qui sont toujours là pour donner un coup de main quand nous avons besoin. Si nous aimons recevoir des mots comme ça, et je pense que tout le monde le fait, nous devrions penser à le faire aux autres quand nous avons l'occasion de le faire. Un jour, frères et sœurs, nous serons des exemples encore plus visibles pour le monde entier. Maintenant, il y a un petit rayon de gens autour de nous qui voient nos bonnes œuvres et qui peut glorifier notre Père. Mais un jour, nous allons être visibles au monde entier. Regardons la prophétie d'Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2, versets 2 à 4. Ésaïe chapitre 2, versets 2 à 4. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. » Nous allons certainement revoir ce passage et d'autres semblables à la fête des tabernacles qui approche à grands pas maintenant. Mais ici, nous avons une prophétie de gens du monde entier qui vont vouloir venir à Jérusalem pour être enseignés. Et qui va les enseigner? Vous et moi, frères et sœurs. Nous allons aider Jésus-Christ à disséminer la vérité sur la voie et la loi de Dieu à toute la terre. Aujourd'hui, notre exemple touche quelques personnes autour de nous. Mais nous nous préparons pour le moment quand nos exemples collectifs pourront toucher le monde entier. Nous pouvons anticiper cela avec plaisir. Et nous devrions commencer maintenant. Nous devons pratiquer, répéter, apprendre comment faire cela en préparation pour ce que nous ferons dans l'avenir. Et dans tout cela, frères et sœurs, notre motivation doit être de glorifier notre Père Céleste. C'est ça qui doit nous motiver. Les motivations de l'être humain sont souvent égoïstes. Je suis motivé à faire ceci parce que je recevrai cela, parce qu'il y a une récompense si je fais ceci ou cela. Notre motivation ne devrait pas être de prendre ou de recevoir quelque chose pour nous, mais de rendre gloire à notre Père qui nous a tout donné, la vie, ce qui nous maintient en vie, cet avenir merveilleux pour lequel il nous prépare maintenant, il nous a donné tout cela. Le moindre des choses, c'est d'être motivé pour glorifier notre Père qui est dans les cieux. 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre, chapitre 2, verset 12. 1 Pierre, chapitre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. La majorité des gens avec qui nous avons un contact aujourd'hui, ils ne devront pas venir à Dieu pendant cette vie, ils ne sont pas appelés. Dieu les réserve pour plus tard. La majorité de ceux qui vont voir nos bonnes œuvres ne vont pas l'attribuer à Dieu. Mais ils vont pouvoir l'attribuer à Dieu ce que nous faisons au jour où il les visitera. Et il visitera tout le monde. Il va visiter tout le monde. Nous devons faire tout pour la gloire de Dieu, pour la gloire de notre Père Céleste. Pas de motivation égoïste, pas pour le plaisir de se croire mieux que d'autres. Ce sont des motivations chez certains. De croire que nous sommes plus pieux, que nous sommes plus droits, que nous sommes plus généreux, etc. Nous devons le faire pour glorifier notre Père Céleste. Ça doit être notre motivation première. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 31. Le verset 31 est un verset, c'est un bon but, mais c'est difficile de l'atteindre. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, n'importe quoi d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Dans le manger, dans le boire, et en fait dans tout ce qu'il y a dans la vie, notre motivation doit toujours être de glorifier notre Père qui est dans les cieux. C'est ce qu'il souhaite de notre part. Faites tout pour la gloire de Dieu. Donc notre motivation à être le sel et la lumière du monde, c'est de pouvoir apporter ou diriger la gloire vers notre Père céleste. Dans les versets que nous venons de voir, le chrétien a un rôle de ralentir la dégradation du monde, le sel. Mais point en se retirant du monde, plutôt en agissant au milieu du monde, pour qu'on puisse voir luire sa lumière, pour montrer un exemple de la voie de Dieu, et tout ceci pour la gloire de notre Père céleste. Dieu s'attend à ce que nous soyons visibles, que nous montrions de bons exemples. Nous devons être non pas un spectacle son et lumière, mais d'une certaine façon des spectacles sel et lumière. Et cela pour la gloire de notre Père céleste.